Robert a 56 ans. Autour de son visage, aux muscles durcis par une longue destinée de haine, les cheveux ont pris cette bizarre couleur de cidre allongé d'eau qui vient aux hommes roux lorsqu'ils blanchissent. Il n'est plus le mauvais sujet qui s'imaginait faire la guerre quand il pillait les châteaux de sa tante Mao. À présent, il sait ce qu'est la guerre. Il prépare soigneusement sa campagne. Il a l'autorité que confère l'âge et toutes les expériences accumulées au cours d'une tumultueuse existence. Il est unanimement respecté. Qui donc se rappelle qu'il fut faussaire, parjure, assassin et un peu sorcier? Qui oserait le lui rappeler? Il est Monseigneur Robert, ce colosse vieillissant, mais toujours sûr de soi, qui s'avance en terre française à la tête d'une armée anglaise. Mais cela compte-t-il pour lui que ses troupes soient étrangères? Et d'ailleurs, cette notion existe-t-elle pour aucun des comtes, barons et chevaliers? Leurs expéditions sont des affaires de famille, et leurs combats des luttes d'héritage. L'ennemi est un cousin, mais l'allié est un autre cousin. C'est pour le peuple, dont les maisons vont être brûlées, les granges pillées, les femmes malmenées, que le mot étranger signifie ennemi. Pas pour les princes qui défendent leurs titres et assurent leurs possessions. Pour Robert, cette guerre entre France et Angleterre, c'est sa guerre. Il l'a voulu, prêcher, fabriquer. Elle représente 10 ans d'efforts incessants. Il semble qu'il ne soit né, qu'il n'ait vécu que pour elle. Il se plaignait naguère de n'avoir jamais pu goûter le moment présent. Cette fois, il le savoure enfin. Il aspire l'air comme une liqueur délectable. Chaque minute est un bonheur. Du haut de son énorme alezan, la tête au vent et le haume pendu à la selle, il adresse à son monde de grandes joyeusetés qui font trembler. Il a 22 000 chevaliers et soldats sous ses ordres, et lorsqu'il se retourne, il voit ses lances osciller jusqu'à l'horizon, ainsi qu'une terrible moisson. Les pauvres Bretons fuient devant lui, quelques-uns en chariot, la plupart à pied, sur leurs choses de toile ou d'écorce, les femmes traînant les enfants et les hommes portant sur l'épaule un sachet de blé noir. Robert d'Artois a 56 ans, mais de même qu'il peut encore fournir sans fatigue des étapes de 15 lieues, de même il continue de rêver. Demain, il va prendre Brest, puis il va prendre Vannes, puis il va prendre Rennes. De là, il entrera en Normandie, il se saisira d'Alençon, qui est au frère de Philippe de Valois. D'Alençon. Il court à Évreux, à Conches, son cher Conches. Il court à Château-Gaillard, libère Madame de Beaumont, puis il fond irrésistible sur Paris. Il est au Louvre, à Vincennes, à Saint-Germain. Il fait choir du trône Philippe de Valois et remet la couronne à Édouard qui le fait, lui, Robert, lieutenant général du royaume de France. Son destin a connu des fortunes et des infortunes moins concevables, alors qu'il n'avait pas, soulevant la poussière des routes, toute une armée le suivant. Et en effet, Robert prend Brest, où il délivre la comtesse de Montfort, âme guerrière, corps robuste, qui, tandis que son mari est retenu prisonnier par le roi de France, continue le dos à la mer de résister au bout de son duché. Et en effet, Robert traverse triomphant la Bretagne, et en effet, il assiège Vannes, il fait dresser perrières et catapultes, pointer les bombardes à poudre, dont la fumée se dissout dans les nuages de novembre, ouvrir une brèche dans les murs. La garnison de Vannes est nombreuse, mais ne paraît pas particulièrement résolue. Elle attend le premier assaut pour pouvoir se rendre de façon honorable. Il faudra de part et d'autre sacrifier quelques hommes afin que cette formalité soit remplie. Robert fait lasser son aume d'acier, enfourche son énorme destrier qui s'affaisse un peu sous son poids, abaisse devant son visage la ventaille de son casque, agite d'un geste tournoyant les 6 livres de sa masse d'armes au-dessus de sa tête. Les héros qui font claquer sa bannière hurlent à pleine voix « Artois, à la bataille !» Des hommes de pied courent à côté des chevaux, portant 6 longues échelles. D'autres tiennent au bout d'un bâton des paquets d'étoupes enflammées. Et le tonnerre roule vers les boulis de pierre, à l'endroit où le rempart a cédé. Et la côte flottante de Monseigneur d'Artois, sous les lourdes nuées grises, rougeoie comme la foudre. Un trait d'arbalète ajusté du créneau traversa la côte de soie, l'armure, le cuir du haubergeon, la toile de la chemise. Le choc n'avait pas été plus dur que celui d'une lance de joute. Robert d'Artois arracha lui-même le trait, et quelques foulées plus loin, sans comprendre ce qui lui arrivait, ni pourquoi le ciel devenait soudain si noir, ni pourquoi ses jambes n'enserraient plus son cheval, il s'écroula dans la boue. Tandis que ses troupes enlevaient Vannes, le géant déhaumé étendu sur une échelle était porté jusqu'à son camp. Le sang coulait sous l'échelle. Robert n'avait jamais été blessé auparavant. deux campagnes en Flandre, sa propre expédition en Artois, la guerre d'Aquitaine. Robert, à travers tout cela, était passé sans seulement une écorchure. Pas une lance brisée, en 50 tournois, pas une défense de sanglier ne lui avait même effleuré la peau. Pourquoi devant Vannes, devant cette ville qui n'offrait pas de résistance véritable, qui n'était qu'une étape secondaire sur la route de son épopée? Aucune prédiction funeste concernant Vannes ou la Bretagne n'avait été faite à Robert d'Artois. Le bras qui avait tendu l'arbalète était celui d'un inconnu qui ne savait même pas sur qui il tirait. 4 jours, Robert lutta. Non plus contre les princes et les parlements, non plus contre les lois d'héritage, les coutumes des comtés, contre les ambitions ou l'avidité des familles royales. Il luttait contre sa propre chair. La mort pénétrait en lui par une plaie aux lèvres noirâtres, ouverte entre ce cœur qui avait tant battu et ce ventre qui avait tant mangé. Non pas la mort qui glace, celle qui incendie. Le feu s'était mis dans ses veines. Il fallait à la mort brûler en 4 jours les forces qui restaient en ce corps pour 20 ans de vie. Il refusa de faire un testament, criant que le lendemain il serait à cheval. Il fallut l'attacher pour lui administrer les derniers sacrements, parce qu'il voulait assommer l'aumônier dans lequel il croyait reconnaître Thierry d'Hirson. Il délirait. Robert d'Artois avait toujours détesté la mer. Un bateau appareilla pour le ramener en Angleterre. Toute une nuit, au balancement des flots, il plaida en justice, étrange justice, où il s'adressait aux barons de France en les appelant mes nobles lords, et requérait le Philippe le Bel qui leur donna la saisie de tous les biens de Philippe de Valois, manteau, sceptre et couronne, en exécution d'une bulle papale d'excommunication. Sa voix, depuis le château d'arrière, s'entendait jusqu'à l'étrave, montait jusqu'aux hommes de vigie, dans les mâts. Avant l'aube, il s'apaisa un peu et demanda qu'on approchât son matelas de la porte. Il voulait regarder les dernières étoiles, mais il ne vit pas se lever le soleil. À l'instant de mourir, il imaginait encore qu'il allait guérir. Le dernier mot que ses lèvres formèrent fut « Jamais !» sans qu'on sût s'il s'adressait au roi, à la mer ou à Dieu. Chaque homme venant au monde est investi d'une fonction infime ou capitale, mais généralement inconnu de lui-même, et que sa nature, ses rapports avec ses semblables, les accidents de son existence, le poussent à remplir, à son insu, mais avec l'illusion de la liberté. Robert d'Artois avait mis le feu à l'Occident du monde, sa tâche était achevée. Lorsque le roi Édouard III, en Flandre, apprit sa mort, ses cils se mouillèrent, et il envoya à la reine Philippa une lettre où il disait « Doux cœur, Robert d'Artois, notre cousin, est à Dieu commandé. Pour l'affection que nous avions envers lui, et pour notre honneur, nous avons écrit à nos chanceliers et trésoriers, et les avons chargés de le faire enterrer en notre cité de Londres. Nous voulons, doux cœur, que vous veilliez à ce qu'il fasse bien selon notre volonté. Que Dieu soit gardien de vous. Donnez sous notre sceau privé en la ville de Grandchamp, le jour de Sainte-Catherine, l'an de notre règne d'Angleterre 16e et de France tiers. » Au début de janvier 1343, la crypte de la cathédrale Saint-Paul, à Londres, reçut le plus lourd cercueil qui y fut jamais descendu. Et ici, l'auteur, contraint par l'histoire à tuer son personnage préféré, avec lequel il a vécu 6 années, éprouve une tristesse égale à celle du roi Édouard d'Angleterre. La plume, comme disent les vieux conteurs de chroniques, lui échappe hors des doigts, et il n'a plus le désir de poursuivre, au moins immédiatement, sinon pour faire connaître au lecteur la fin de quelques-uns des principaux héros de ce récit. Franchissons 11 ans et franchissons les Alpes.